Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela au sujet de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète !» D'autres disaient « C'est le Christ !» Mais d'autres disaient « Est-ce de Galilée que vient le Christ ? » L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David ? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent vers les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé ainsi. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé égarer ? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait mis sa foi en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu le trouver précédemment et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et qu'on sache ce qu'il fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu de Galilée, toi aussi ? Cherche bien et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. »
Ce jour-là était un grand jour de fête à Jérusalem. La fête des tentes, appelée aussi fête des huttes, c'était l'une de ces fêtes religieuses qui avait beaucoup d'importance en Israël au temps de Jésus. Chaque année, à l'occasion de cette fête des tentes, une bonne partie des habitants du pays se rendaient à Jérusalem. Et là-bas, c'est une fête assez particulière puisque on fabriquait des petites huttes, d'où le nom de la fête, avec des branches et des feuilles, et on séjournait pendant une semaine dans ces huttes, soit à Jérusalem, si on avait pu faire le pèlerinage, soit dans sa région, dans sa ville, eh bien on se fabriquait une petite hutte dans laquelle on passait la semaine. Aujourd'hui, on parlerait peut-être de camping, mais ça avait quand même un sens autre à l'époque. En réalité, il s'agissait de rappeler que le peuple d'Israël avait dû vivre comme des nomades, dans des tentes, pendant les 40 années d'errance dans le désert suite à la libération du peuple d'Égypte. Or, pendant 40 ans, Dieu a pourvu aux besoins de son peuple. Il a pourvu, par exemple, en donnant de la nourriture, la manne qui est tombée du ciel, en donnant de l'eau également de façon miraculeuse. Et la fête des tentes qui commémorait cela, c'était donc aussi une célébration de la fidélité de Dieu. Et puis, c'était aussi associé aux récoltes. C'est une culture encore très agraire. Et donc, il y avait aussi une fête des récoltes, en particulier la récolte d'olives et de raisins qui avait lieu à l'automne. Et la fête durait une semaine exactement. Mais le huitième jour, donc en fait le lendemain de la fête, c'était aussi une journée festive et particulière. Ce jour-là, en fait, on défaisait les tentes en chantant des psaumes et on apportait des sacrifices au temple en reconnaissance à Dieu. Et c'est vraisemblablement de ce huitième jour que l'apôtre Jean parle lorsqu'il écrit au verset 37 « Le dernier jour, le grand jour de la fête ». Or, ce jour-là, Jésus de Nazareth, cet homme de plus en plus controversé, réapparaît en public. Et je vous propose de réfléchir à cet extrait qu'Églantine vient de nous lire il y a quelques instants. On va y réfléchir en deux temps. D'abord, une invitation saisissante et ensuite une polémique grandissante. Une invitation saisissante d'abord donc. Donc c'est le dernier jour de la période festive à Jérusalem et Jésus prend la parole à nouveau. Quelques jours après sa dernière intervention dont nous avons parlé les deux derniers dimanches. Mais cette fois Jésus ne va pas donner un discours habituel. Si on regarde bien, le verset 37 nous dit qu'il s'est écrié dans la cour du temple. Donc il faut imaginer la scène, il y a des gens partout. venus apporter des sacrifices pour remercier Dieu en clôture de cette fête des tentes. Jésus est au milieu de la foule, une foule très nombreuse, et tout d'un coup, à pleine voix, il crie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Je pense que Jésus a crié beaucoup plus fort que cela, mais je ne vais pas vous la faire. Jésus a crié ces paroles. On lit parfois ce verset comme si Jésus était au coin du feu avec une tisane verveine-menthe avec ses disciples. Et c'est pas du tout cela. La voix de Jésus ici est fracassante. Elle vient interrompre le vacarme. Elle vient arrêter le déroulement tranquille de la tradition religieuse et de la vie quotidienne. Alors essayons bien sûr de comprendre le sens de ces paroles de Jésus. Je relis la fin du verset 37 et le verset 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors il faut savoir, c'est intéressant pour bien comprendre le sens des paroles de Jésus, il faut savoir que pendant les 7 jours de la fête des tentes à Jérusalem, il y avait une cérémonie particulière qui avait lieu une fois par jour. Le grand prêtre, accompagné par une foule de pèlerins, allait puiser de l'eau dans la piscine dite de Siloam, dont on a retrouvé d'ailleurs des traces architecturales. Il rapportait alors l'eau au temple, et celle-ci était versée en offrande à Dieu. Pourquoi ce symbole? Pourquoi ce geste? Il s'agissait de rappeler que Dieu, qui avait pris soin de son peuple pendant les 40 ans dans le désert, lui avait aussi donné de l'eau à boire. Alors que dit Jésus ici, le lendemain du dernier jour où cette cérémonie a eu lieu? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'est-ce que Jésus affirme ici? Une fois de plus, sa parole est saisissante. Jésus est en train d'affirmer que, à l'image du peuple d'Israël dans le désert, le peuple est maintenant invité à se tourner vers lui, Jésus, pour recevoir de sa part l'eau qui mettra fin à sa soif. C'est vers Jésus qu'il faut se tourner. Ça rappelle ce que Jésus a dit plus tôt dans l'évangile de Jean, chapitre 4, dans sa conversation avec la femme samaritaine, lorsqu'il dit « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Si on peut juste avoir la diapo avec ce texte. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il poursuit avec ses paroles mystérieuses. « Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et Jean précise au verset 39, « Il dit cela au sujet de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui. » Car il n'y avait pas encore d'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Juste une très brève parenthèse sur cette dernière phrase. Jean ne veut assurément pas dire qu'il n'y avait pas de Saint-Esprit dans l'absolu, que le Saint-Esprit n'existait pas encore. D'ailleurs, on a déjà vu le Saint-Esprit à l'œuvre plus tôt dans cet évangile, par exemple lors du baptême de Jésus. Donc ce que Jean affirme ici, ce n'est pas que l'Esprit Saint n'existait pas, mais qu'il n'avait pas encore été répandu avec puissance sur les croyants, comme ce sera le cas après la résurrection et l'ascension de Jésus. Je ferme juste la parenthèse. Mais comment comprendre cette image étrange que Jésus semble décrire? C'est quand même étonnant comme image. Il dit que celui ou celle qui viendra boire auprès de lui aura comme des fleuves d'eau vive qui coulent à partir d'eux. Une image qui surprend. Comment comprendre également le lien que Jean ensuite fait avec le Saint-Esprit? En fait, il y a plusieurs textes bibliques qui sont à l'arrière-plan de cette image. Écoutez d'abord ce texte du prophète Ézéchiel qui a reçu la vision d'un nouveau temple qu'il associe à un nouveau monde à venir. L'eau s'écoulait du côté sud du temple, mais passait au sud de l'autel. C'était devenu un torrent infranchissable. Sur chaque rive du torrent, des arbres fruitiers de toutes sortes pousseront. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Le prophète Joël évoque une image similaire. Il écrit ceci. En ce jour-là, le jus du raisin ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, l'eau coulera dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison du Seigneur, autrement dit le temple. On a là deux textes qui parlent d'une ère imagée qui me parle pardon, de manière imagée d'une nouvelle ère à venir, au cours de laquelle il y aura un nouveau monde, plein de paix et d'abondance, et un nouveau temple dont sort une source. Et pourquoi à chaque fois une source qui sort du temple ? Parce que l'eau dans l'Ancien Testament symbolise, entre autres, l'abondance qui vient de Dieu et le soin qu'il prend de son peuple. Écoutons le prophète Ésaïe à ce sujet. « Vous puiserez de l'eau gaiement aux sources du salut. » Ésaïe 12, 3. Ou encore toujours Ésaïe. « Oh là, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle. » Ésaïe 55. Dans leur contexte, ces textes évoquent tous la nouvelle alliance, c'est-à-dire une nouvelle relation conclue par Dieu avec les hommes. Et les prophètes nous disent que Dieu va conclure cette relation en déversant son esprit sur les hommes et les femmes qu'il invite à le connaître. Autrement dit, Dieu va venir habiter, non plus dans un temple physique à Jérusalem ou ailleurs, il va venir résider dans la vie même de ceux et celles qui ont placé leur confiance en lui. Et cette présence de Dieu sera une source éternelle de joie, de paix et d'abondance. Lorsqu'on a bien saisi la richesse de ces images de l'Ancien Testament, on comprend d'autant mieux en quoi l'invitation de Jésus est saisissante. Jésus se trouve dans le temple de Jérusalem, le temple physique de son époque. Mais dans ce temple, il dit que Dieu manifeste pleinement sa présence dans sa personne, lui Jésus. Il affirme que c'est lui qui offre l'eau du salut. Il va jusqu'à dire que celui qui vient à lui sera lui-même comme le temple de la vision d'Ézéchiel, c'est-à-dire un lieu où Dieu réside, un lieu où Dieu fait jaillir l'abondance de la vie. Qui a soif ici ? Qui a soif de vivre, non plus pour le métro, boulot, dodo, mais de vivre l'abondance inimaginable d'une relation vivante et éternel avec celui qui nous a créés. Par la venue de Jésus-Christ dans ce monde, en chair et en os, Dieu est venu à notre recherche. Il est venu nous appeler à venir à lui. Il est venu pour nous offrir une vie qui est ancrée dans son amour et ancrée dans son éternité. Qui a soif ? Je vous pose la question, parce qu'il y a des gens qui ont soif ici. Lucille a reconnu qu'elle avait soif, et elle a bu. Non pas l'eau du baptistère, je vous rassure, mais elle a bu l'eau inépuisable qu'offre Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas encore fait ce choix essentiel, je prie Dieu que vous ne tardiez pas à le faire. Et quant à ceux d'entre nous qui nous sommes déjà tournés vers Jésus, nous avons en permanence dans notre vie cette source inépuisable de la présence et de la bonté de Dieu. Comment comprendre que si souvent, et moi le premier, nous nous tournions ailleurs pour boire. Nous croyons prendre des forces en plaçant notre confiance dans une quantité de choses dans lesquelles on pense trouver justement cette force. Des choses dont on a l'impression que c'est ça qui fait notre identité. Notre travail, nos relations, notre apparence peut-être. Plutôt que de nous abreuver encore et encore à la vie nouvelle que nous offre Jésus. Une des choses qui me bouleverse dans ce récit de l'évangile de Jean, c'est que Jésus, il n'a pas crié ses paroles, histoire de les crier pour qu'on puisse ensuite écrire dans la Bible que c'est qu'il a dit ça. C'est aussi pour cela, mais il a crié parce qu'il appelait vraiment des gens. C'est pas pour rien qu'il s'est écrié. C'était véritablement un appel. Et si cette voix a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui, c'est pour que des hommes et des femmes d'aujourd'hui puissent aussi l'entendre et retrouver le Dieu de l'univers qui veut se faire connaître d'eux. Alors je ne sais pas si toutes les personnes dans la cour du temple ont compris tout ce qu'impliquaient les paroles criées par Jésus, sans doute pas. Mais on peut imaginer que pour les dignitaires religieux qui s'opposaient à Jésus, la coupe était pleine et le reste du texte fait état d'une polémique grandissante. Et ce sera le second point, une polémique grandissante. Il est frappant de voir qu'un même événement peut être interprété de manière radicalement opposée par des personnes dont le positionnement est différent. Un exemple parmi bien d'autres, il y a 2 semaines environ, ceux qui suivent les infos le savent, l'ancien président Nicolas Sarkozy a écrit une tribune dans le Figaro et aussi sur sa page Facebook en réaction aux écoutes téléphoniques dont il est l'objet. Je ne me prononce absolument pas sur le fond de tout ça, je vous rassure. Pour un même texte qu'il a écrit, voici quelques réactions. Alors pour le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le contenu de la lettre était une faute morale. À l'inverse, pour Jean-François Copé, le président de l'UMP, c'était une réponse courageuse, forte et indispensable. On a un même événement et puis deux réactions radicalement opposées. Alors plus banalement, on retrouve cela lorsque nous faisons face à un conflit entre deux personnes et qu'on entend pour un même événement deux interprétations radicalement opposées. Dans notre texte, nous voyons que les paroles de Jésus n'ont laissé personne indifférent. Au verset 40 et 41, on voit que les foules s'interrogent à nouveau sur l'identité de Jésus, comme c'est le cas depuis un certain temps. Pour certains, c'est le prophète, c'est-à-dire, dans le contexte, c'est le prophète dont Moïse avait annoncé la venue, celui qui devait venir après lui, celui qui viendrait à sa suite pour enseigner le peuple de Dieu. Pour d'autres, c'est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le descendant glorieux de David, qui devait régner non seulement sur Israël, mais aussi sur toutes les nations, le roi de toute la terre et même le roi de l'univers. Et en réalité, ces deux opinions étaient correctes. Le Nouveau Testament nous révèle Jésus-Christ comme étant à la fois ce prophète qui devait venir à la suite de Moïse, mais aussi ce roi descendant de David, dont le règne est universel et éternel. Mais dans la suite du texte, on voit que les foules ont du mal à faire cadrer les affirmations de Jésus avec ce qu'ils croient savoir de lui et ses origines modestes. On le voit à la fin du verset 41. Est-ce de Galilée que vient le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David ? Ici, il y a une ironie sous-entendue dans le récit que fait Jean. Parce que Jean savait parfaitement bien, et la plupart de ses lecteurs à l'époque savaient aussi, que Jésus effectivement est né à Bethléem, même si ensuite il a grandi en Galilée. Jean le sait parfaitement. Ici, il veut montrer justement l'authenticité des paroles de Jésus par contraste avec l'ignorance de ses détracteurs, qui en fait ne savent rien sur lui. Mais revenons à la cour du temple. La polémique enfle, verset 43. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Et Jean rajoute que certains voulaient l'arrêter. Or, une sorte de mandat d'arrêt avait déjà été émis par les autorités du temple. On l'a vu dimanche dernier, au verset 32, les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Mais là, surprise, les gardes ne veulent pas arrêter Jésus. Ils refusent. Et alors, leur chef leur demande, mais enfin, qu'est-ce qu'on vous a envoyé pour le ramener ? Vous revenez les mains vides, qu'est-ce qui se passe ? Et ils répondent, verset 46, jamais un homme n'a parlé ainsi. Et là, les pharisiens vont avoir recours au bon vieil argument élitiste. Les pharisiens, je précise, c'était un parti religieux à l'époque. Et les personnes qui faisaient partie de ce parti des pharisiens, c'était en gros l'élite religieuse, pour faire simple. Donc, les pharisiens vont avoir recours au bon vieil argument élitiste. Verset 48, y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait mis sa foi en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Autrement dit, vous n'allez quand même pas croire ces gens qui font leur course au Lidl, qui conduisent une Clio. C'est un peu anachronique ce que je dis, mais j'actualise les références. Les pharisiens estiment que si Jésus est suivi par le petit peuple, mais pas par l'élite, c'est sûrement le signe qu'il ne faut pas l'écouter. C'est un peu notre tendance dans la culture française d'être très attentif à ce que disent les élites et de considérer que si des gens célèbres le disent, ça doit être vrai. Mais Dieu pense autrement. Et tout le propos de Jean dans ce paragraphe, c'est de montrer que les autorités religieuses qui croient être éclairées sont en réalité plongées dans les ténèbres, tandis que la foule perçoit des éléments de vérité. Jésus est le prophète qui devait venir, le prophète comme Moïse. Jésus est le Messie, le roi messianique. Jésus n'est pas que cela, bien sûr. Ils vont continuer à comprendre d'autres choses. Et Jean montre cela encore une fois avec ironie. D'abord, alors que les pharisiens viennent de dire qu'aucun chef, aucun pharisien n'a mis sa foi en Jésus, eh bien Nicodème, qui précisément était l'un d'eux, va défendre publiquement Jésus. Alors c'est vrai, on ne sait pas dans quelle mesure il avait vraiment placé sa foi en lui, mais en tout cas c'est la deuxième fois qu'il s'intéresse à Jésus et qu'il semble avoir une perspective positive sur Jésus et accorder de l'importance à son enseignement. Donc Nicodème va simplement rappeler un peu de procédure, il rappelle à ses collègues qu'on ne juge pas un homme sans avoir entendu sa défense. Et là, les autres prêtres et pharisiens sortent un argument profond et solidement argumenté. Verset 52, « Serais-tu de Galilée, toi aussi ? Alors c'est bien connu, quand on n'a pas d'argument à faire valoir, soit on crie plus fort, soit on fait du délit de faciès, comme on dit. Tu dis ça parce que tu viens de tel pays, de telle origine, de tel département, etc. Mais ils poursuivent, cherche bien et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. Mais en fait, c'est encore raté. Au moins un prophète, Jonas, était né à coup sûr en Galilée. Pour un autre, Naoum, on n'est pas sûr, mais c'est probable. Et le prophète Ésaïe a ceci à dire à propos de la Galilée, au chapitre 8, verset 23. « Les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. » Et dans le même texte, quelques versets plus loin, Ésaïe annonce la venue du Messie, d'un roi descendant de David, qu'on appellera aussi Dieu héros. Dans toute cette section, Jean veut nous montrer que ceux qui se croient éclairés et qui sont les accusateurs de Jésus, en fait, ils sont complètement dans l'erreur. En revanche, ceux qui se laissent interpeller par la voix de Jésus, ils reconnaissent que jamais personne n'a parlé comme cet homme. Et la question nous est posée, une fois de plus, comment réagissons-nous face aux paroles de Jésus ? Est-ce que nous croyons l'avoir rangé dans une case ? Pour les pharisiens, la plupart d'entre eux en tout cas, Jésus était un illuminé ou peut-être un imposteur. Pour beaucoup de nos contemporains, Jésus n'est qu'une vague référence historique. Pourtant, ils ont soif. Et seul Jésus peut apaiser cette soif. À vrai dire, même les chrétiens, encore une fois, moi le premier, nous avons tendance à ranger Jésus dans une case. La case vie spirituelle. J'ai mon boulot, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mes loisirs, et puis j'ai ma vie spirituelle. Et quand j'en ai besoin, j'ouvre ce tiroir-là. Et là, il y a Jésus. Par quelle folie pensons-nous que nous n'avons pas besoin de Jésus pour tous les domaines de notre vie ? En conclusion, je voudrais m'arrêter sur une dernière ironie du texte. Au verset 52, les collègues de Nicodème lui disent « Cherche bien et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. » Mais en fait, on a vu, c'est tout le contraire. Si on cherche bien, on voit qu'il y a des prophètes qui viennent de la Galilée et que cette région même, elle aura un avenir glorieux. Alors, le fait que des prophètes du temps passé soient nés en Galilée ou non, ce n'est pas très important en soi. Mais il y a un enjeu important dans cet échange entre Nicodème et ses collègues. Parce qu'ils prétendent qu'en cherchant bien dans les Écritures, la foule verra que Jésus n'est qu'un imposteur. Or, précisément, ce sont eux qui n'ont pas bien cherché. N'ayons pas peur de nous plonger dans la Bible. N'ayons pas peur d'en explorer toute la profondeur. N'ayons pas peur de réfléchir, de raisonner, de nous poser les questions difficiles. La foi ne peut pas s'opposer à la raison si la foi est placée dans le Dieu qui a créé la raison. En général, plus les gens écoutent sérieusement et profondément ce qu'enseigne Jésus, plus ils ont tendance à se tourner vers lui. L'un des drames de notre société, si instruite par ailleurs, c'est qu'elle évite soigneusement de s'intéresser aux paroles de Jésus. On nous dit « cherchez bien » et vous verrez que tout ça, ce ne sont que des superstitions. Mais Jésus nous dit « cherchez et vous trouverez ». Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, te remercions encore pour le moment que tu nous as permis de vivre tout à l'heure et pour cette confession publique de la foi de Lucille. Nous voulons te remercier pour ton invitation que tu adresses encore ce soir à chaque personne ici présente qui ne l'a pas encore reçue. Mais une invitation que tu renouvelles aussi pour tous ceux qui sont déjà tes disciples et qui font face aux difficultés, aux épreuves de la vie, qui font face, Seigneur, également aux doutes, qui font face à leurs propres péchés aussi. Seigneur, nous avons besoin de toi chaque jour, chaque heure. Nous te remercions parce que tu es celui qui donne l'eau, qui ne nous laissera jamais la soif, mais qui nous désaltère toujours et éternellement. Au nom de Jésus, Amen.